Bonjour Pascal, vous allez bien?
Bonjour Sébastien, très très bien. Je suis en Bretagne, fait beau mais froid.
Vous êtes où en Bretagne, dites-moi?
Je suis à Lamballe. Lamballe, c'est à côté. Alors, Lamballe, 90% des gens à qui on demande où on est, Lamballe, personne ne sait. Lamballe, c'est à côté de Saint-Brieuc, à 20 km de Saint-Brieuc,
D'accord.
au sud de Saint-Brieuc. Voilà. Et il y a un
Alors,
célèbre haras à Lamballe.
très bien. Donc on vous reçoit pour la parution donc de Jean de La Fontaine et son époque au fil des fables, donc qui est apparu le 1er avril aux éditions de Gorce. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît?
Oui, ben je m'appelle donc Pascal Tonazzi, je suis guitariste, professeur de guitare et passionné déjà du siècle de Louis XIV. Donc ce qui m'a emmené musicalement à jouer de la musique baroque, de la musique de chambre et à m'intéresser à tous les aspects artistiques de cette époque, notamment la littérature et les fables de La Fontaine qui font tellement partie de notre patrimoine que bah, c'était naturel. Je les aimais beaucoup. Hein. J'ai toujours aimé avoir les fables de La Fontaine dans la poche quand on va en vacances, en montagne ou ailleurs d'ailleurs. J'ai toujours un peu un exemplaire des fables. Et voilà, je me suis intéressé à La Fontaine, à sa vie, vous voyez, de fil en aiguille, voilà comment c'est arrivé.
D'accord.
Et voilà. Donc c'est pour ça qu'après, bah, je me suis dit sur certains aspects de La Fontaine qui était peu connue, voire même méconnue, bah je me suis dit, je vais essayer de le faire découvrir.
Parce
C'est pour ça que
que
je suis
alors,
devenu, j'ai pris ma plume. Et
donc vous écrivez beaucoup sur Jean de La Fontaine. Est-ce que vous
voilà.
pouvez nous dire quand ce projet est né exactement?
Alors, ce projet j'écris depuis une dizaine d'années sur La Fontaine. J'ai commencé mes premiers projets sur La Fontaine, sur son vocabulaire, sur la mythologie, sur les maximes aussi, tout ça en même temps un petit peu, oui,
Très
en lisant
bien.
les fables, on arrive à une masse il y a 243 fables, certains diront aussi 244 fables de La Fontaine, donc oui, ça fait 10 800 vers, 10 800 vers, ça laisse 10 800 possibilités de mots qu'on ne comprend pas, de verbes, de personnages qui apparaissent notamment dans notre livre. C'est pour ça que lui, il est axé sur les personnages qui sont
D'accord.
dans les fables de La Fontaine,
Oui.
les personnages de son époque, ses contemporains, ses amis, ses mécènes, un petit peu tout ça. Et il y en a plein, mais on ne les connaît pas.
Et
Et donc,
pourquoi?
voilà, donc tout ça a fait que j'ai eu envie de faire des collections aussi un petit peu en parallèle, même. Je collectionne des livres sur La Fontaine et sur les fables, et puis un peu sur la vie de La Fontaine. Et comme ce sujet n'était pas traité vraiment dans aucun bouquin, bah, je me suis dit, je vais me lancer, quoi. Je vais essayer d'en parler aussi.
Et donc, pourquoi avoir choisi de parler des fables à travers l'entourage de leur auteur?
Parce que c'est un aspect qui est intéressant, parce qu'il y a plein de personnages. Je sais pas, je peux vous prendre, par exemple, à un moment donné, La Fontaine parle de Lambert. Bon, mais qui c'est Lambert? C'est un voisin de palier. Non,
Oui, oui,
Lambert,
oui.
c'était le beau-frère de Lully. Il était lui-même, alors, on connaît Jean-Baptiste Lully, mais Lambert, il était marié avec sa fille de Lully. Non, Lully était marié avec la fille de Lambert, attention, sinon. Voilà, par exemple, Lambert.
Parce
Et
que
donc, le
Lully
cycle.
et La Fontaine étaient se tiraient la bourre entre guillemets pour
Oui,
l'écriture d'un livret d'opéra, c'est ça?
voilà, exactement. Bah,
Ils étaient en
il faut bien dire que
compétition pour
Jean de La
l'eau.
Fontaine avait été un petit peu sollicité pour écrire un livret d'opéra. Et Lully, ça ne lui a pas plu du tout. Il n'a même pas voulu du tout commencer une collaboration avec La Fontaine. Ce qui fait que bah, La Fontaine a été un petit peu, quand même, un petit peu meurtri. Alors, il a écrit un pamphlet qui s'appelle Le Florentin, où il attaque bien Lully. Ce n'est pas dans son style. Hein. La Fontaine, il n'est pas méchant du tout. C'est plutôt quelqu'un, on le surnommait le bonhomme d'ailleurs. Ses amis l'appelaient le bonhomme parce qu'il était vraiment bah, agréable et sympathique avec tout le monde. Et là, il s'en était pris un petit coup. Et c'est vrai qu'avec Lully, ils se sont réconciliés après, un petit peu après, parce que bon, ça ne durerait pas longtemps, les querelles. Mais c'est vrai que Lully, c'était vraiment, si vous voulez, le plus important compositeur de l'époque. pas forcément le meilleur, ça c'est un critère de
c'était le compositeur du roi, c'est ça?
Exactement, le compositeur du roi, il composait aussi bien les ballets, il avait même aussi un peu la haute main sur tout ce qui était musical, et même sur les autres compositeurs, si d'autres compositeurs ne lui plaisaient pas, vous savez, hop, il les empêchait plus ou moins d'écrire, enfin, il avait la haute main sur tout.
Et quel genre, quel genre d'homme, d'après vous, était La Fontaine, par exemple? Ce que vous dites, c'est un bonhomme, mais quel genre, par exemple, si on le rencontrait dans la rue aujourd'hui, ou si on avait la possibilité, vous et moi, d'aller au grand siècle et de frapper à sa porte, quel genre d'homme on aurait devant nous?
Ce serait un homme aimable, déjà, affable aussi. Alors, affable et.
En un mot.
Oui, exactement. Affable, et puis surtout, alors, il se décrivait lui-même comme quelqu'un d'assez. Nonchalant, voilà, il définit comme quelqu'un d'un peu rêveur, bien sûr.
À l'époque, on aurait dit que c'était un libertin, c'était un libre penseur, ou c'était plutôt quelqu'un qui.
Oui, c'était un libre penseur. Alors, le côté libertin, c'est pas non plus le marquis de Sade, si vous voulez.
Ouais.
C'était un libertin, mais alors plus dans ses rêves que dans la réalité.
Ce n'était pas un débauché pour autant, on va dire.
Non, c'est pas un grand débauché. Mmh. Non, il rêvait. Enfin, c'est vrai que après on ne connaît pas les détails exacts. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il flirtait beaucoup. C'est sûr, il flirtait beaucoup, apparemment. Et parce qu'avec sa femme, il s'est marié. Lui, pas très jeune, mais elle, très jeune. Il avait 26 ou 27 ans. Elle en avait 14 et demi. Et ils ont pas formé un couple très très uni très longtemps. Donc lui il vivait à Paris, elle vivait à Château-Thierry, et donc voilà, donc il avait une vie assez il revenait à Château-Thierry régulièrement, mais enfin bon, ils avaient une vie un petit peu séparée comme ça, et donc La Fontaine avait une propension à aimer les belles femmes ou autre, elle les aimait plus, je vous dis, dans ses rêves et dans ses écrits. Alors là, ouais. C'est magnifique comment il magnifie ses amis ou autre, c'est formidable. Mais en réalité, après, c'est pas...
Et qui étaient ses amis, mais par contre, au sens large, là, on sort du cadre sentimental, mais qui étaient ses amis proches, dans la sphère amicale ou même politique? Oui. Vous avez quelques noms?
Ah oui, j'ai des noms, et j'ai les dire. Donc,
on a les preuves.
Donc, son meilleur ami, son plus grand ami, c'est François de Maucroix. François de Maucroix, on a pensé longtemps qu'il l'avait rencontré sur les bancs d'école à Château-Thierry, et il est possible qu'il l'ait rencontré un peu après à Paris, donc pendant ses études.
Alors pour les gens qui ne savent pas Château-Thierry, pour le rappeler aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est là où est né Jean La Fontaine.
Exactement. D'accord. C'est là où il y a la maison natale de Jean La Fontaine. C'est là où il a vécu très longtemps. C'est là où il est retourné quasiment toute sa vie. C'est là où il a commis sa femme, enfin, et ainsi de suite. Voilà, c'est la grande ville, et actuellement, c'est bien sûr le berceau de la, je dirais, qui garde un petit peu la mémoire de Jean de La Fontaine, c'est à Château-Thierry.
D'accord.
Il y a d'ailleurs le musée Château-Thierry avec sa maison natale qui est extraordinaire, donc ça c'est à voir absolument. Plus là, l'église, il a été baptisé le 8 juillet 1621. Voilà. Donc c'est
Maucroix.
Vraiment
donc, enfin, Maucroix,
grande ville, mais c'est pas très loin de Paris.
Donc on a Maucroix, donc c'était son ami principal.
Voilà, c'était son grand ami.
Maucroix,
c'était son ami personnel, si vous voulez.
Hein. D'accord.
Il a d'autres amis aussi personnels, comme par exemple Madame de Sévigné, aussi La Rochefoucauld était un de ses amis personnels, mais c'est déjà un cercle moins intime, si vous voulez.
D'accord.
Voilà. Après, il avait aussi tous ses mécènes. À commencer par le plus disgracié, le malheureux Nicolas Fouquet, qui a été le pauvre.
Alors qu'est-ce qu'il a fait, Fouquet, pour être disgracié?
Ah ben, le pauvre Fouquet, il était surintendant des finances de Louis XIV. Et
Il a piqué dans la caisse?
Non, il n'est pas d'aujourd'hui. Il n'a pas piqué dans la caisse, mais il s'est enrichi énormément. Et lorsque Louis XIV est devenu vraiment roi effectif, quoi, parce qu'avant il était sous la tutelle un peu d'autres gens avant, quand il était plus jeune. Et donc quand il est vraiment devenu roi et il a décidé de gouverner seul, la fortune de son surintendant, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir deux personnages.
Non, dans l'histoire de France, c'est vrai, ça arrive souvent. La richesse crée des convoitises et des jalousies. Et on voit par exemple le grand argentier du roi, Jacques Coeur. Donc argentier de Charles VII, je crois. Pareil, a été disgracié. Il s'est énormément enrichi, il a énormément apporté au royaume. Et puis, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, même s'ils remplissent correctement leur mission, invariablement, c'est peut-être une exagération, mais c'est vrai que souvent, leur destin, c'est de terminer en disgrâce, quoi.
Et oui, c'est exactement ce qui est arrivé à Fouquet. Il a invité le roi à une grande fête dans son château de Vaux-le-Vicomte. On dit que c'est vraiment là où Louis XIV a décidé de lui enlever toutes ses fonctions, et pas seulement de lui enlever ses fonctions, mais de lui enlever son château, ses possessions, tout. Fouquet avait quand même l'île de Belle-Île, par exemple, c'était un richissime possédant, hein. Mais il aimait les arts. Et donc, il avait La Fontaine comme... il lui avait fait une pension poétique, c'est-à-dire que tous les trimestres, à chaque saison, La Fontaine devait lui offrir des poèmes, alors, des poèmes pas sur des thèmes un peu précis, sur des thèmes pour un petit peu le mettre en valeur, pour mettre en valeur Fouquet, pour mettre en valeur son château de Vaux-le-Vicomte. Bon, voilà. Donc c'était vraiment son premier mécène. Et d'accord. Quand il a été disgracié, quand il a été arrêté il a été arrêté au mois de septembre 1661 à Nantes, au château de Nantes, juste à côté, et par le fameux D'Artagnan, le mousquetaire D'Artagnan. Enfin, tout seul, hein, D'Artagnan était avec
Athos, Porthos et Aramis.
Avec sa bande, D'Artagnan et sa bande.
Je plaisante.
Alors, et voilà, donc alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le pauvre La Fontaine, il a continué très courageusement à défendre son mécène, à le défendre par des écrits. Alors, il a même écrit à Louis XIV, il a écrit une ode au roi pour lui demander d'être un peu plus clément avec Fouquet. Mais alors, Louis XIV et Colbert, attention, Louis XIV n'est pas tout seul, il y avait son homme d'année, Colbert, qui était avec lui, qui voulait la place, de Fouquet. Donc, il a intrigué en disant au roi, quand même, Fouquet, il s'est enrichi, c'est pas bien. Le roi était d'accord, ils l'ont emprisonné, et Colbert a pris sa place. Très ironiquement, lorsque La Fontaine a été élu à l'Académie française, il a pris la place, le fauteuil numéro 24 de Colbert, qui était justement. C'est assez ironique quand même.
Donc c'est Colbert et La Fontaine, justice divine ou hasard, on ne sait pas.
Oui, ben c'est étonnant. Au point que Louis XIV, qui n'aimait pas non plus, ben bien sûr, il n'aimait pas La Fontaine, puisqu'il était le protégé de Fouquet, a fait sursoir à l'élection de La Fontaine.
Ah oui, vous l'évoquez. Alors bien sûr, moi je connais votre livre, hein. Oui. Je l'ai publié. Donc ça, c'est des éléments, une élection, tout un déroulé que vous abordez dans le livre. Et quand il arrive à l'Académie, il doit attendre l'élection d'un autre académicien. Exactement. Pour être accepté, pour que son élection soit validée en quelque sorte, c'est ça?
Exactement. Louis XIV avait un candidat favori, c'était son hagiographe, celui qui faisait son historique, c'était Nicolas Boileau.
Ah oui, mais, Boileau,
qui était aussi un ami quand même de La Fontaine, hein, ils se connaissaient, mais Louis XIV voulait que ce soit Boileau. La Fontaine est élue, ça lui a pas plu du tout, il a dit on va attendre, quoi, que 6 mois après, Nicolas Boileau soit élu, et donc là, d'accord, il a bien accepté que aussi La Fontaine soit élue.
Oui, parce que si La Fontaine, bon, j'en parle dans la quatrième, si La Fontaine critique, hein, en filigrane la royauté, sans elle, il n'aurait pas pu être publié, quoi. Parce que les livres, à cette époque, un livre devait être publié, être diffusé et légalement trouver leur place en librairie, il fallait qu'ils aient le privilège du roi. C'était une autorisation légale. Bon, voilà. Et donc, il fallait quand même faire attention à ce que l'on disait. Et peut-être que le roi n'était pas dupe des sentiments de La Fontaine et que accepter en première analyse sans faire sentir à l'auteur ou à l'académicien qu'il n'avait pas tout à fait l'assentiment de la royauté, c'était peut-être une manière pour Louis XIV de montrer que qu'il n'était pas dupe de la duplicité, mais du sentiment de La Fontaine vis-à-vis de la royauté, vis-à-vis des idées aussi, parce que faut rappeler qu'au grand siècle, on n'était pas forcément libre de penser ce que l'on voulait, qu'il y avait beaucoup de bouillonnement entre les anciens et les modernes, et que La Fontaine, même s'il faisait figure donc d'intellectuel et qui faisait vraiment preuve de bon sens, il était entre les deux. Il avait un bon sens qui était naturel, et il se défendait autant on va pas appeler ça les persécutions de l'Église, on va plutôt penser ça d'une pensée monolithique de l'Église, et peut-être les pensées entre guillemets progressistes, mais qui contenaient aussi des erreurs, comme vous en parlez à un moment avec Descartes, qui comparait les animaux, comparait les animaux à des machines.
Les animaux-machines, ça c'est terrible. Alors, aujourd'hui, avec notre sensibilité, on sait bien que les animaux ne sont pas des machines, heureusement. Mais c'est vrai que Descartes est persuadé que même les cris des animaux et autres, ce n'étaient que des réflexes physiques, et non pas du tout une pensée ou une douleur réelle.
On va pas déflorer l'ouvrage, mais vous terminez l'ouvrage là-dessus, je crois, avec le discours à Madame de la Sablière, c'est bien ça?
Oui, alors ça vraiment, franchement, on peut en parler, parce que justement, on parlait de son élection, et le jour de son élection, le 2 mai 1684, il a lu un discours qu'on retrouve quasiment jamais nulle part, c'est le discours à Madame de la Sablière. Il y a deux poésies de La Fontaine, il y a une fable qui s'appelle Discours à Madame de la Sablière, qui conclut le livre 9, et il y a ce discours à Madame de la Sablière, qui est un bijou de nostalgie et de poésie de La Fontaine qu'on ne retrouve que dans les intégrales. Voilà. Il y a quelques livres qui ont proposé l'intégrale des œuvres de La Fontaine, et on ne le retrouve que là. Mais dans des autres livres, moi, je ne l'ai jamais vu. Et ça, c'est vrai que dans notre livre, il y est, et c'est vraiment beau, quoi. On a décidé de le mettre.
Ah oui, il n'est pas à la fin, il est à un autre endroit quand vous parlez.
Mais juste avant la conclusion. Juste celui qui est avant la conclusion.
Voilà, quand vous parlez.
Et on met les deux discours comme ça, on ne peut pas se tromper.
Mais, il était amoureux de cette personne, Jean de Fontaine?
C'était, alors, Madame de la Sablière, c'était sa protectrice. Pendant 20 ans, elle l'a hébergée chez lui. Oui, ça fait quand même long. Et elle tenait un grand salon littéraire, un salon à l'époque, très 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 couru, où il a rencontré plein de vraiment beaucoup de savants de l'époque ou autre, et là c'était formidable pour lui. Il vivait, il était nourri, logé, blanchi, et puis bien sûr il l'aimait un petit peu alors platoniquement, ça c'est sûr. Vous voyez, c'est difficile de savoir vraiment les sentiments des gens. Est-ce que c'était des sentiments penser ou à ce point amoureux comme on pourrait les imaginer aujourd'hui, vous savez,
alors j'imagine que les gens ne pensaient et ne vivaient pas l'amour de la même manière qu'aujourd'hui, c'est
non,
sûr,
il y a une pensée poétique, on peut pas il l'avait écrit, il lui donnait des noms poétiques, et même les autres auteurs aussi.
On parle à notre époque beaucoup des femmes dans les médias, dans les journaux, dans les ouvrages, on parle beaucoup de la place de la femme dans la société. Quand j'ai lu votre bouquin, ça m'a un peu apparu le fait que des femmes qui n'avaient pas forcément voix au chapitre dans les affaires, à part, on a eu des régentes, on a eu des femmes très puissantes, mais on avait des femmes qui avaient une véritable influence dans la vie intellectuelle de leur pays et qui étaient des piliers. Et souvent, moi, c'est ce que je retire de mes lectures et de mon intuition, c'est que les femmes ont même peut-être plus de pouvoir que les hommes parce qu'elles ne subissent pas cette volonté de gloriole, de titre et de reconnaissance. Elles agissent par leur don et par le fait qu'elles agrègent autour d'elles des intellectuels ou qu'elles déclenchent un panel d'émotions qui n'est pas forcément sur le devant de la scène, mais qui vont influencer même ceux qui, au plus haut, vont diriger, prendre les décisions, vous voyez ?
Mais oui, derrière chaque dirigeant se cache une femme, comme dit le proverbe. Mais et derrière chaque écrivain, il y avait une
égérie,
voilà, quelqu'un qui était pour eux l'image idéalisée de.
Alors vous parlez d'une actrice d'ailleurs. Alors
il y a une actrice. La Chamélée, c'était une grande actrice tragédienne. Qui a créé toutes les grandes tragédies de Racine, Jean Racine.
Donc c'était une star, quoi.
Ah oui, à l'époque c'était une star, c'était vraiment une star. Et lui, il en était amoureux platoniquement, encore une fois, et elle était vraiment la maîtresse de Jean Racine, qui était son cousin à Jean de La Fontaine. Ah, par la femme de Jean de La Fontaine. Jean Racine était un cousin un peu éloigné de la femme de Jean de La Fontaine.
D'accord.
Donc, c'était un petit peu des familiers. Ils se connaissaient bien. Ils se sont écrits de très belles lettres, d'ailleurs. Voilà, ils s'aimaient bien. Mais voilà, rivalité amoureuse, c'est pas La Fontaine qui gagnait. Hein. C'est rare.
Alors,
Parce que La Fontaine, il n'était pas si riche que ça. Il a même fini très, très pauvre. Il est venu hébergé par des amis. Une fois que Madame de La Sablière est décédée, il s'est retrouvé, pas à la rue, mais oui. Il s'est retrouvé là, puisqu'elle l'hébergeait, il n'avait plus rien, tout ce qu'il avait possédé à Château-Thierry, il les avait vendus, il avait tout vendu, ses charges, ses maisons, ses possessions, ses fermes, tout, il avait tout vendu. Il avait des dettes, parce que la vie, voilà. Parce que il ne faut pas croire que ses livres lui rapportaient de l'argent. Très peu à l'époque, on ne s'enrichissait pas. C'était quelques centaines de livres vendus. Alors on avait une reconnaissance de ses pairs, une reconnaissance artistique, mais pas du tout une reconnaissance financière. On ne s'achetait pas un yacht.
Je vous rassure, Pascal, même à notre époque, les auteurs qui vivent de leurs plumes sont une minorité privilégiée, enfin privilégiée entre guillemets, parce qu'on peut vendre beaucoup, beaucoup de livres, mais après, ce serait une question trop longue à développer, Mais oui, très peu d'auteurs peuvent vivre de leur plume. Est-ce que, donc là, on va éviter de trop rentrer dans l'ouvrage, on va laisser les gens avoir l'occasion de rentrer, de le découvrir par eux-mêmes et de se faire une idée. Est-ce que, avant d'en terminer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des événements autour des 400 ans de Jean de La Fontaine? Qu'est-ce que ça veut dire, les 400 ans de Jean de La Fontaine?
Les 400 ans, ça marque vraiment donc sa naissance. 400, c'est un chiffre rond, évidemment. Ça a permis à la ville de Château-Thierry de développer la ville et le département, hein, bien sûr, de l'Aisne, toute la région aussi du Nord, un peu plus du Nord d'ailleurs, la région des Hauts-de-France, de développer des. De demander aussi de faire des appels à des auteurs, à des artistes, à des musiciens, à des plasticiens, à créer des événements autour de ce grand moment qui est un moment poétique.
Alors quand est-ce que se passe vraiment les 400 ans? C'est toute la...
Les 400 ans, alors les 400 ans, pile, si on veut être là, pile le jour des 400 ans, c'est le 8 juillet. Parce que, alors attention, Jean de La Fontaine a été baptisé le 8 juillet 1621 à Château-Thierry. Baptisé. À l'église Saint-Crépin. Mais on sait qu'à l'époque, c'est pas une date de baptême. C'est une date de baptême, mais c'est pas une date de naissance. La date de naissance, c'est peut-être juste le jour avant.
Oui.
Mais c'est peut-être le 7, il est peut-être né le 7, mais il est peut-être né le 8 aussi. Hein, Voilà. Mais c'est, voilà. Donc c'est vraiment à ce moment-là où on fêtera les 400 ans. Voilà, c'est ce jour-là.
D'accord.
L'année, malheureusement, avec ce Covid, cette Covid qui empêche beaucoup, beaucoup d'événements, d'expositions aussi. Il y aura une très belle exposition de Lego qui se fera aussi, notamment à Château-Thierry.
D'accord.
Mais pour tout ça, il faut quand même que le public puisse venir et puisse venir l'admirer. Et il faut qu'on puisse avoir des autorisations de l'État, quoi. Voilà. Donc voilà, les 400 ans, ça marque une année poétique forte avec La Fontaine. Parce que cette année, on sait bien aussi, par exemple, on vient de fêter les 200 ans, de Baudelaire aussi, là. Les 200 ans de Baudelaire. Et aussi, c'est les 200 ans de la mort de Napoléon. Bon, mais
voilà, une actualité forte. Ouais.
C'est des années complexes, mais bon, nous, c'est vrai que c'est La Fontaine, c'est merveilleux. Et puis c'est quand même un poète du XVIIe siècle, le plus grand, un des plus grands poètes français déjà de tous les temps, et du XVIIe siècle, c'est évident. Voilà, donc c'est un grand penseur aussi, oui, c'est un philosophe.
Il est appris à l'école. Tout le monde a lu, et même appris par cœur au moins un de ses textes, quoi.
Oh, bah bien sûr. Les deux premières fables, La cigale et la fourmi, et puis Le corbeau et le renard,
ça fait partie de l'ADN des Français, on va dire.
Ah oui, oui, mais complètement. Complètement. Avec, alors bien sûr, quand on parle des fables de La Fontaine, peu de gens, enfin, font l'effort, enfin, je dirais, connaissent, enfin, ont lu toutes les fables. Quoi. Il y en a plus de 240, donc c'est quand même énorme. 240, c'est quand j'en parle des fois à des amis ou autres, pour leur donner une idée, 244 ou autre, c'est comme si on lisait une fable de La Fontaine du 1er janvier au 31 août. Voilà, vous voyez, c'est pas une dizaine de fables, une vingtaine, un mois, on en a 30, non. Du 1er janvier au 31 août, vous lisez tous les jours une fable, et vous avez une fable de La Fontaine. Plus ou moins longue, la plus courte a fait 8 vers. C'est la fameuse Le renard et les raisins. Et puis vous en avez d'autres qui en font 400, vers la fin du livre. Voilà, donc oui, c'est une floraison de poésie qu'on ne connaît pas bien, mais qui regorge, pour en parler de notre livre, qui regorge de personnages et de dédicataires aussi, et de personnages qu'on ne connaît pas. Par exemple, on en parle 5 minutes, Fagotin, mais qui connaît Fagotin? Fagotin, c'était un petit singe. C'est un petit singe savant qui faisait des tours sur le Pont Neuf à Paris, et qui a eu le grand malheur d'être tué par un autre personnage hyper connu en France, par Cyrano de Bergerac, qui était un personnage réel. Cyrano de Bergerac, ce n'était pas seulement une invention d'Edmond Rostand. Voilà. Et donc, celui qui faisait faire les tours à Fagotin, il l'avait fagoté en rétière, comme ça, et comment ça s'appelle. Donc, Cyrano de Bergerac passe sur le pont, et il s'offusque un peu, voilà, il y a une bagarre, pof, crac, il l'embroche, si vous voulez. Voilà, pauvre bête.
Oui, parce que les vendeurs d'Orvietan, les artistes produisaient sur le Pont Neuf, et puis, on est dans le... Dans l'ambiance de l'époque, on retrouve
Il habitait Paris, il habitait notamment chez son oncle Jeannard, pas loin. Il habitait quai des Grands Augustins, par en face aussi, ils avaient un palais. Donc, parce que son oncle, l'oncle de sa femme, toujours, hein, et il était magistrat. Et donc, il hébergeait, quand Jean de La Fontaine et sa femme venaient à Paris, il hébergeait dans le palais royal, dans le palais. Au 36 quai des Orfèvres, quasiment, oui. Voilà, il n'est pas les monottes, hein, mais bon, c'est pas pareil. Et donc, il hébergeait, et le Pont Neuf étant juste à côté, donc il y avait une ambiance extraordinaire. C'est là où sont nés les bouquinistes, par exemple. Vous avez un panneau, au bout du Pont Neuf, vous avez un panneau sur les bouquinistes, où c'est là où les marchands ambulants de livres ont commencé à.
Oui, avec leur boîte accrochée au parapet.
Voilà, tout ça, ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment le cœur de Paris. Et La Fontaine, il aimait le cœur de Paris. C'était vraiment son endroit préféré. Voilà.
Très bien. Écoutez, Pascal, je vous remercie pour toutes ces indications. Oui. Je vous remercie pour ce voyage dans le grand siècle et dans l'intimité de Jean de La Fontaine. De toute façon, on pourra vous retrouver soit avec nous dans une autre vidéo où on pourra parler peut-être de vos autres ouvrages, de votre parcours personnel, etc. Pour l'instant, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait confiance. Merci d'avoir...
Ça a été très agréable. Et puis, on a survolé notre livre, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'anecdotes encore dedans qui sont à découvrir. Hein.
Alors, on va laisser les gens découvrir.
Oui, il faut un peu de suspense.
Oui, bien sûr. Après, l'ouvrage, vous pourrez le dédicacer bientôt. Hein. Quand tout le monde sera, sera vacciné, que les conditions pourront le permettre. L'ouvrage, pour l'instant, il est disponible en librairie. Bien sûr, il est à Château-Thierry. N'importe qui peut le commander chez son libraire en donnant le titre, pourquoi pas le numéro ISBN, etc. Et puis sinon, sur le site des éditions de Gorce.
Exactement.
Je vous souhaite une excellente...
Vous pouvez mieux dire.
Je vous souhaite une excellente journée.
Merci beaucoup, Sébastien, et à tous nos lecteurs, futurs lecteurs aussi. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.